Bien, alors il est déjà minuit 45, alors nous sommes de retour. C'est la conclusion de cette chronique « Prendre la route » et on va conclure évidemment avec les auditeurs qui ont des questions bien précises pour notre invité, Maître Jean-François Gay. Alors, on va donc prendre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en ligne, alors on va y aller tranquillement mais sûrement, et nous allons parler d'abord à M. Benoît.
Oui, bonsoir à vous deux.
Bonsoir, Benoît.
Oui, ça va bien?
Oui, ça va bien, merci.
Oui, regarde, moi j'ai deux questions pour vous autres, entre autres pour le Porsche Macan. Je veux savoir si c'est un excellent véhicule, point de vue fiabilité, si on peut comparer à la fiabilité du Honda.
Le Porsche Macan avec un Honda, lequel Honda? Honda CR-V, genre?
Oui, le Honda CR-V, oui. Le Touring, là.
Oui, bien, je vous dirais, là, c'est vraiment deux véhicules qui ne sont pas dans la même catégorie, là. Le rival du Porsche Macan, je vous dirais, il faudrait aller du côté d'Acura. Je pense à l'Acura RDX, qui est moins cher aussi que le Macan, on s'entend, là. Je vous dirais, au niveau de la fiabilité, tout est relatif dans ce milieu-là, surtout chez Porsche, monsieur, parce que c'est un véhicule qui est quand même cher à l'achat. Les coûts des pièces de remplacement, c'est assez dispendieux. Quand vous allez aller au garage, on s'entend que là, le tarif horaire d'un garage Porsche n'est pas le même qu'un garage Honda ou Acura. C'est plus cher. Donc, okay. Tout coûte plus cher. Concernant la fiabilité, règle générale, je vous dirais que les produits Porsche, moi, c'est la fiabilité est au-dessus de la moyenne. Mais de là à dire qu'une Porsche est aussi fiable qu'un véhicule Honda ou un véhicule Toyota, là, je dirais que non.
OK.
Mais attendez-vous, parce que ça coûte plus cher en frais d'entretien et en frais de réparation.
OK. Puis l'autre question, j'ai entendu parler que le CR-V hybride, il s'en venait, mais je ne sais pas si on va l'avoir au Canada. Je sais qu'aux États-Unis, probablement, qu'il va être là. J'ai entendu parler de ça, c'est un concessionnaire. Est-ce vrai ou faux?
Oui, le véhicule a été dévoilé il y a deux semaines au Salon de Los Angeles. Et moi, je pense que ce véhicule-là va être vendu au Canada, parce qu'on s'entend qu'au Canada et au Québec, on est friands là, de voitures hybrides, voitures électriques. Donc, il n'y a pas de raison que ce véhicule-là ne soit pas offert chez nous.
OK. Puis les rabais, les fameux rabais du gouvernement là, de 8, 10, 12, 13 000 $, est-ce qu'ils vont être applicables aussi sur un CR-V?
Hybride, non. Peut-être? Non. Les rabais, là, ça s'applique sur les voitures hybrides rechargeables, les voitures entièrement électriques. Donc, les voitures entièrement électriques, là, vous allez avoir des rabais de 8 000 du provincial puis 5 000 du fédéral. Puis quand on parle d'hybrides rechargeables, là, je pense notamment, je sais pas, une Toyota Prius Prime, je pense aussi, je sais pas, parlant
Chevrolet
de véhicules. Pardon?
La Chevrolet Bolt aussi?
Chevrolet Bolt, ça, c'est une subvention de 8 000 et de 5 000. Mais les hybrides rechargeables, c'est la moitié. C'est 4 000 du provincial puis 2 500 du fédéral.
Parfait, monsieur. Alors, merci beaucoup d'avoir téléphoné. Nous allons prendre un autre appel. Nous allons parler maintenant à Dominique, je crois.
Oui, bonjour. Ça va bien?
Oui, ça va bien. Merci.
Oui, j'ai une question pour Maître Gay, mais j'ai aussi une réponse à votre question. À quoi ça sert d'avoir 500 chevaux dans une auto? C'est sûr que si on est prêt à payer jusqu'à 100 000 $ pour un auto, j'imagine que c'est pas juste pour se rendre du point A au point B. Puis la plupart des personnes qui ont 500 chevaux et plus dans leur auto, c'est sûr que ils vont l'emmener sur des pistes de drague, d'accélération, des pistes de course. C'est vraiment là qu'on va pouvoir apprécier la machine. C'est sûr que c'est pas sur l'autoroute avec toutes les nids de poules et tous les radars qu'il y a présentement.
Mm-hmm. Bon, c'est donc, possible, pensez honnêtement que ces gens-là vont passer le fin de semaine à Tremblant à essayer leur véhicule. Enfin, peut-être.
J'en connais, puis oui, ils passent le fin de semaine à Tremblant. Oui. Il y en a qui aiment ça aller jardiner à leur potager, puis il y en a d'autres que c'est les pistes de course, leur hobby. Fait que chacun leur choix.
Chacun son dada, vous avez raison. Ben oui.
Il y en a un qui coûte plus cher que l'autre, ça, c'est sûr.
Oui, ça, c'est sûr.
Ma question, c'était concernant les Toyota. La Corolla, j'avais pas vraiment compris le début de la chronique. Je sais pas s'il a répondu déjà à la question. Mais pour une troisième fois consécutive, la nouvelle génération de Corolla, ils disent qu'elle est plus sportive et plus ferme dans la conduite. Vous, Maître Guy, après l'avoir conduit, est-ce que vous sentez vraiment que c'est digne d'un auto-berline sportif ou c'est encore, mettons, très loin d'une Golf ou d'un modèle qui est considéré déjà comme la plupart comme sportif?
Bien, c'est sûr, on s'entend que la Corolla, le châssis est plus rigide qu'avant. La conduite est plus dynamique, mais c'est pas une conduite aussi dynamique qu'une Mazda 3 ou une Honda Civic, à titre de comparaison.
Okay,
ouais.
Même après plusieurs tentatives, ils ne sont pas encore, dans ces eaux-là.
Ils ne sont pas dans ces eaux-là, mais c'est voulu, ça, monsieur. Parce qu'il y a des gens là, qui aiment des voitures sportives, hein, une conduite plus dynamique, mais il y a d'autres personnes, eux, c'est pas ça le principal intérêt. Là. Eux, comme vous disiez tantôt, il y a des gens qui prennent des voitures sport pour aller sur les pistes de drague ou des pistes de course. Mais monsieur, madame, tout le monde... achète la Corolla justement pour ça, parce que c'est une petite voiture qui est facile à conduire, une voiture qui est fiable, qui est confortable, puis qui n'a pas...
Si c'est ça le but, pourquoi qu'ils essaient de rivaliser les voitures plus sport? C'est ça que je comprends pas à chaque fois.
En quel sens?
Dans le sens que pourquoi qu'ils disent qu'elle est plus sport, qu'elle est plus ferme, qu'elle est plus rigide, si leur but et leur marché est d'aller dans des personnes qui aiment plus avoir le confort?
Est encore confortable. Je vous dirais aussi, c'est du marketing aussi. Quand Toyota nous présente cette voiture-là comme étant plus dynamique, plus sportive que les générations précédentes, c'est parce qu'ils sont pas... ils sont quand même conscients que quand que des gens critiquent la voiture, c'est surtout ça qui... C'est le point faible de la voiture. On dit que c'est une conduite somnifère, etc., etc. Donc là, ils ont mis le paquet. Ils ont fait pareil avec la Camry, ils ont fait pareil avec la Vallon. Ils ont donné une arme plus sportive à ces produits-là, même si ces produits-là n'arrivent pas à la même... n'est pas, comment dire ça? C'est moins sportif qu'une Mazda ou une Honda.
OK, parfait. Bon, ben, merci d'avoir répondu à ma question.
D'accord, monsieur. Merci d'avoir téléphoné. Nous allons parler maintenant à monsieur Robert, je crois.
Oui, bonjour à vous autres. Quelle émission intéressante. Moi, j'ai acheté un Hyundai Elantra 2020 à la place d'un Nissan Sentra. Le 27 300. Est-ce que j'ai payé un bon prix? Et la consommation d'essence de Hyundai Elantra, est-ce qu'elle va coûter plus cher vu que c'est un 2 litres puis Nissan Sentra, c'est 1,8 litres? Quel est le meilleur choix des deux?
Bien là, on parle d'une Sentra de quelle année, monsieur?
2020.
OK, OK. Là, vous voulez comparer une Elantra 2020 avec une Sentra 2020?
Oui, pour savoir si je vais regretter mon achat.
Bien là, peut-être que vous avez acheté trop vite. Là. Je ne veux pas vous décourager. Sauf que la nouvelle Nissan Sentra a été dévoilée, la 2020 a été dévoilée au Salon de Los Angeles il y a 2 semaines. Et une toute nouvelle voiture, nouvel intérieur, nouveau châssis. Au niveau du design, le design reprend beaucoup le design de sa grande sœur, là, Altima, et aussi Maxima. C'est un nouveau moteur aussi, 147 chevaux de mémoire, c'est un 1,8 litres. Je ne l'ai pas encore essayé, donc je ne peux pas vous dire si ce véhicule-là va consommer moins que l'Elantra, mais je serais porté à dire que oui, que la nouvelle Sentra va consommer un petit peu moins là, que l'Elantra.
OK. Est-ce que j'ai fait quand même une bonne achat?
Je pense que oui. Ben oui, vous avez fait un bon achat. Je vais vous rassurer là-dessus. C'est une voiture qui est mieux aboutie là, que la génération précédente. Puis dans cette catégorie-là, tantôt, on parlait de la Corolla, de la Civic, la Mazda 3. C'est toutes des petites voitures qui, d'une génération à l'autre, là, se perfectionnent. C'est des voitures qui sont plus confortables, plus silencieuses. Plus fiable aussi à la longue. Puis, non, vous avez fait un bon achat, monsieur. Soyez. Dormez bien là-dessus.
Qu'est-ce que vous pensez de 27 300?
Ça, c'est dur à dire, par contre. Là. Quelle version vous avez acheté, vous?
Hyundai Elantra de base, automatique.
De base? 27 000 avec les taxes?
Pardon?
C'est-tu avec
27 300, c'est ce qui est marqué au crédit. Là. C'est le char me revient à 27 300 probablement.
Bon, oui, avec les taxes probablement.
Avec
là,
les
oui.
taxes, bon. Mmh. C'est avec les taxes, c'est correct. Ben oui. Ben oui.
OK. j'ai oublié l'autre question.
On peut toujours y revenir éventuellement.
OK.
Vous nous rappellerez la semaine prochaine. Je ne sais pas si Jean-François va être encore avec nous, mais probablement que oui. Alors, rappelez-nous, monsieur, ça va nous faire plaisir. Merci, la mémoire va sûrement vous revenir. Ça m'arrive des fois de...
Oui,
un petit blanc de mémoire, là, quand même, ça arrive. On a peut-être le temps pour un dernier appel. Nous allons parler à Michel, je crois.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, Michel.
C'est un peu particulier mon cas. Moi, j'aime bien la Mazda 5. J'ai acheté mon premier Mazda 5 en 2008. C'était en 2007. J'en ai acheté un deuxième en 2009, à l'entour de 2011. Puis là, je viens de vendre mon 2008. Je viens de m'acheter le dernier des modèles de 2017.
Mm-hmm.
Fait que là, en ce moment, j'ai un 2017, un 2009. Mais là, bientôt, je veux remplacer mon 2009. Puis, puisqu'ils ne font plus ce Mazda 5-là, je commence à regarder d'autres véhicules. Mais je vous avoue que j'ai de la misère à en trouver un qui peut vraiment remplacer le Mazda 5.
Alors, vous cherchez un comparatif, là?
Oui, parce que comme...
Oui, il ne reste pas grand temps, monsieur Jean-François.
Bien, c'est sûr, monsieur, je vous comprends, vous n'êtes pas le seul. Il n'y a plus d'autres véhicules dans cette catégorie avec des petites portes, des portes coulissantes à l'arrière, à moins d'opter pour une grande fourgonnette. Il y a le Kia...
Ah, ce véhicule-là. Je peux mettre un 2x4, demi-pied de long, pas de problème.
Trouvez-en un 2017. Voilà, je pense, là, si vous avez... Alors, trouvez-en un autre 2017. Il y en a sûrement... des modèles en bon état là, qui n'ont quasiment pas de kilométrage là, sur le marché. Moi, je pense que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner.
Bon, merci. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres véhicules pour le remplacer.
Non, il n'y en a pas d'autres. Comme oui. Avec une configuration comme celui-là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'autres.
Bon, je viens de pêcher. Merci.
Ben, c'est ça, exactement. Parfait, monsieur. Merci beaucoup d'avoir téléphoné. Passez une très bonne nuit. On doit s'arrêter. Merci, Maître Gay. Toujours un plaisir de vous parler.
À la semaine prochaine,
de
si
jaser, de dialoguer avec vous. Toujours intéressant. Et soyez prudent quand même.
Merci.
Essayez de pas vous fâcher au volant.
Ben, pareillement.
Parfait. Merci. On va faire une pause dans quelques instants, un petit coup d'œil sur l'actualité. Et nous allons, bien sûr, commencer notre tribune téléphonique également un petit peu plus tard.